Vous écoutez Envers et Contre tous, Bebop et Cool Jazz.
Jason Durand, Amaury Perrard. Yes, we can.
Et merci d'écouter ce nouvel épisode de Envers et Contre tous, intitulé Bebop et Cool Jazz. Je suis toujours avec mon collègue Amaury.
Bonjour à tous.
Et nous venons d'entrer dans le Minton's Playhouse, où un nouveau courant de la musique jazz va voir le jour. Alors dans les années 40, le swing est à son apogée, et la nouvelle génération de musiciens va se sentir enfermée dans ce middle jazz. Ils vont donc essayer de créer une nouvelle musique que les Blancs, cette fois, ne pourront pas jouer, et ils vont donc décider de la propager oralement et de ne pas l'écrire. Le bebop va donc faire son apparition au Minton's Playhouse, où va se réunir des musiciens virtuoses pour taper le bœuf. Parmi eux, on peut citer Bud Powell et Thelonious Monk au piano, Max Roach et Kenny Clarke à la batterie, Dizzy Gillespie à la trompette et Charlie Parker au saxophone. Alors, il est évident qu'il y a un lien entre l'essor de la contestation des gens de couleur aux États-Unis et cette volonté de cette nouvelle génération de musiciens à créer un nouveau mouvement qui bouleverse toutes les règles qu'on trouvait jusqu'alors dans la musique. Le duo Dizzy Gillespie à la trompette et Charlie Parker au saxophone est incontournable. Amaury, peux-tu nous en parler ?
Alors, Dizzy Gillespie est l'une des plus grandes figures du bebop. Il est trompettiste, mais aussi chanteur, pianiste, directeur d'orchestre, compositeur et arrangeur. C'est un très grand showman qui se remarquera notamment par ses pitreries. Il participe à la création de nombreux grands orchestres, mais il apparaît également fréquemment en tant que soliste au Jazz at the Philharmonic sous la direction de Norman Grant. Le jeu de Gillespie se caractérise par sa virtuosité et une technique époustouflante qui lui permet un jeu vraiment rapide. Dès la fin des années 1940, il est impliqué dans le mouvement appelé « Musique afro-cubaine ». En 1947, il écrit « Manteca » en compagnie de Sean Opozzo et jette ainsi les bases du jazz afro-cubain. Alors, ce que l'on retient le plus de Dizzy, c'est son tandem avec Parker. D'un point de vue personnel, tous les opposent, puisque Dizzy est volontiers expansif et bon vivant, alors que Charlie Parker est beaucoup plus introverti, timide. Il est accro aux drogues et l'alcool, et ça le rend même paranoïaque. Mais il est considéré comme l'un des plus grands improvisateurs de l'histoire du jazz, puisqu'il s'exprime avec une très grande variété de techniques. Ça développe chez lui une sonorité unique qui est vraiment en rupture avec ses prédécesseurs et il produit des morceaux d'une complexité mélodique incroyable. Malheureusement, l'addiction de Parker aux drogues est si importante qu'il se soucie davantage de l'obtention de ses doses plutôt que d'arriver à l'heure à ses concerts. Et l'année 1946 se termina pour lui dans un séjour de 6 mois à l'hôpital psychiatrique. À sa sortie de l'hôpital, en janvier 1947, il est enfin débarrassé de ses problèmes d'addiction et se remettra à faire de la musique pour produire les années suivantes d'excellents disques. Et puisqu'on a la radio, on va en profiter pour écouter un hommage à un grand journaliste de jazz à la radio américaine, Oscar Treadwell. Il s'agit de « An Oscar for Treadwell », interprété par Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Thank you.
L'excellent morceau An Oscar for Treadwell, composé par Charlie Parker et interprété par lui-même et Dizzy Gillespie dans l'album Bird and Deeds. Alors, petite anecdote sur le son assez spécial de Dizzy, qui est en fait en partie dû à la forme de sa trompette qui est coudée. Alors en fait, tout commence à New York le 6 janvier 1953 au club de jazz Le Snookies. Dizzy y joue tous les soirs, mais ce jour-là, il organise un concert privé pour l'anniversaire de sa femme, Lorraine. Il est en compagnie de quelques amis du show business, et pendant que la fête se prépare, Dizzy participe à une émission de télévision. À son retour, il va retrouver sa trompette dans un piteux état. Le pavillon se dresse en l'air, il est complètement tordu. En fait, deux de ses amis, Stump et Stumpy, qui sont des comiques danseurs de claquettes, expliquent à Dizzy qu'après avoir bu quelques verres, ils ont quelque peu chahuté sur la scène et l'un des deux a chuté sur la trompette. Alors là, Dizzy rentre dans une colère noire, mais il n'a pas le choix. Dans quelques minutes, il doit jouer. Dizzy va alors jouer toute la nuit, et plus il va jouer, plus il va apprécier le son original de cette trompette. Et au lieu de la faire réparer, finalement, il va demander aussitôt à son facteur d'instruments, la Martin Company, une réplique de sa trompette. C'est sa femme qui va dessiner le prototype. Avec un angle à 45 degrés, le fameux bent horn de Dizzy vient de naître. Dizzy confiera plus tard, c'est la meilleure chose qu'il me soit arrivée. Bon, alors on ne peut pas parler de bebop sans évoquer l'excellent pianiste Thelonious Monk. Alors c'est vraiment un ovni du jazz. Hein. Sa façon de jouer va lui valoir le respect de ses confrères. Il va inspirer de nombreux musiciens, mais jamais personne ne pourra vraiment jouer à la façon de Monk. C'est vraiment un génie inimitable. Ses compositions, autant que son jeu, va susciter de vives réactions. Il va bousculer la mélodie, l'harmonie et le rythme. D'ailleurs, ses compositions vont devenir des standards, comme par exemple Blue Monk ou Round Midnight. C'était un personnage particulier, parce que Monk en fait avait une santé mentale vraiment particulière. Jamais ses symptômes n'ont été clairement identifiés. On dit qu'il aurait souffert d'une forme d'autisme que les psychiatres identifient comme une schizophrénie non répertoriée. Alors au début, personne ne voulait vraiment jouer avec Monk. C'est Coleman Hawkins, en 44, qui l'invite pour l'enregistrement de son album. Et en 47, Monk va commencer à enregistrer son premier album chez Blue Note. Plus tard, il sera engagé par CBS et il jouera au sein d'un quartet avec des musiciens comme le saxophoniste ténor Charlie Rouse. Alors si vous voulez vraiment en connaître plus sur ce personnage, je vous invite à regarder Straight No Chaser, réalisé par Clint Eastwood. On écoute tout de suite un thème de Monk qui va devenir vraiment un très très grand standard de jazz. Il s'agit de Blue Monk.
On vient d'écouter Blue Monk, interprété par Thelonious Monk en quartet. Alors nous allons parler un peu maintenant du contexte historique et social de cette époque, et il nous est important de citer deux hommes, Thurgood Marshall et Harry Truman. Alors Marshall était un juriste américain, le tout premier noir à siéger à la Cour suprême des États-Unis, mais en 1940, il est alors avocat et tient seul les rênes des fonds juridiques de la NAACP. Convaincu que les droits civiques s'obtiendraient par la bataille juridique, il allait gagner 29 des 32 procès qu'il plaiderait devant la Cour suprême. Et dans plusieurs de ses jugements successifs, la Cour suprême condamna aussi la ségrégation à bord des trains et des autobus. Harry Truman, lui, était le vice-président de Franklin Roosevelt et à sa mort, le 12 avril 1945, il prit la présidence. La détermination nouvelle des gens de couleur pour obtenir leurs droits civiques n'avait pas échappé à Harry Truman, qui était alors déterminé à agir en faveur de l'égalité raciale. Il entama à sa prise de pouvoir de nombreuses réformes afin d'assurer l'égalité au sein de l'administration fédérale et de l'armée. S'entame alors une très lente déségrégation des lieux publics, notamment à travers des réformes et des lois condamnant la discrimination, et au milieu des années 50, la plupart des lieux publics de la capitale se retrouvèrent donc déségrégés. L'un des principaux combats de Marshall, lui, était celui de l'égalité scolaire. Il obtint le 17 mai 1954 de la Cour suprême une décision unanime. Dans le domaine de l'instruction publique, la doctrine séparée mais égaux n'a pas sa place. Des établissements scolaires séparés sont intrinsèquement inégaux. C'est une révolution. Au terme d'une bataille juridique acharnée, les avocats de la NAACP remportèrent donc une victoire éclatante. Les ségrégationnistes déclarent d'ailleurs ce jour de lundi noir. Mais malgré ces victoires, les discriminations et les actes de violence avaient évidemment toujours lieu. Si bien qu'en 1951, le Civil Rights Congress apporta aux Nations Unies une pétition intitulée « Nous accusons de génocide ». Elle dénonçait les lynchages et autres actes de violence commis par la suprématie blanche. Le gouvernement semblait toutefois enfin avoir pris la responsabilité de la déségrégation. Les droits constitutionnels des Noirs étaient reconnus et ils étaient incompatibles avec la discrimination. Le Sud refusait évidemment de se soumettre, mais les Noirs n'avaient pas davantage l'intention d'abandonner des droits aussi chèrement acquis, car eux aussi, ils aspiraient à une part égale du rêve américain. On retourne un peu à la musique avec Charlie Parker et Miles Davis qui nous interprètent « Scrapple from the Apple ».
Scrapple from the Apple de Charlie Parker et Miles Davis. Alors le bebop va conduire les musiciens à l'extrême de la dépense physique et de l'exploit technique. Il va alors apparaître en contre-réaction au bebop un nouveau courant qu'on appelle le cool jazz. Le cool jazz provient en partie des sens capitales de Miles Davis. Miles ne va plus s'occuper de la virtuosité, mais va mettre au profit la sensibilité. Alors le style va être aussi dû aux deux arrangeurs avec lesquels Miles va collaborer, à savoir Jerry Mulligan et Gil Evans. Ce nouveau mouvement va être caractérisé par un son plus intimiste, un tempo linéaire et la recherche de nouvelles sonorités. On surnomme aussi le cool jazz de « jazz de chambre ». Et c'est l'album « Birth of the Cool » de 1949 par Miles Davis qui donnera de base solide à ce nouveau courant. Miles Davis va cultiver une personnalité de premier plan comme l'avait instauré, on l'avait vu dans les épisodes précédents, Louis Armstrong. Il cultive une certaine image que les gens n'apprécient pas forcément, le trouvant assez froid et antipathique. Il a l'habitude de jouer les yeux fermés en tournant le dos au public. Alors c'était selon lui pour mieux se concentrer en faisant abstraction de son environnement, mais les spectateurs vont souvent lui reprocher ce comportement. Lui répond simplement qu'un chef d'orchestre ne tourne jamais le dos à ses musiciens. Miles sera aussi quelqu'un de très sensible à la discrimination raciale. La police à l'époque harcelait régulièrement les jazzmen. Les contrôles étaient donc fréquents et un soir, Miles s'est fait tabasser par un policier qui ne voulait pas le voir traîner et surtout ne pas voir un noir traîner devant la salle de concert alors qu'il était lui-même programmé en tête d'affiche ce soir-là. Miles disait que s'il avait été blanc, il aurait mieux réussi. D'ailleurs, Panonica de Königswarter, fille du Lord Rothschild et aussi mélomane et mécène du jazz dans les années 50 et 60, demanda à plusieurs musiciens de jazz quels étaient leurs trois vœux. Miles Davis n'en formula qu'un, glaçant et qui disait tout de la condition des Noirs, être blanc. On écoute tout de suite So What, interprété par Miles Davis.
Et nous venons d'écouter So What, interprété par Miles Davis. Alors le cool jazz se cristallise en 1952 dans un style de musique de chambre avec le Modern Jazz Quartet de John Lewis. L'instrumentation y évolue discrète, le son du piano de John Lewis est délicat et le vibraphone de Milt Jackson est cristallin, et ils sont simplement accompagnés d'une contrebasse et d'une batterie. Ce quartet choque par l'absence de souffleur, mais le cool est en perpétuelle recherche de sonorité. On vous propose d'écouter une version atypique d'un vieux thème de jazz, Summertime, interprété par le Modern Jazz Quartet. Thank you.
Summertime, interprété par le Modern Jazz Quartet. On est à la cool dans Envers et Contre Tous, mais malheureusement cet épisode est terminé. Alors en conclusion, nous avons vu la déségrégation progressive, mais encore incomplète de la société américaine. Tout ça en parallèle avec la création de nouveaux courants musicaux. Ces courants musicaux vont renverser les codes de la musique existante, ce qui va finalement exprimer une volonté de la part des musiciens à modifier les codes sociaux. Alors comme d'habitude, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur www.associationdeclic.org. Retrouvez aussi la podcast en version longue sur Facebook et SoundCloud. On écoute tout de suite un morceau de l'album posthume Doo Bop de Miles Davis paru en 1992. Il a la particularité d'intégrer des rythmes directement issus de la culture hip-hop. On écoute Miles Davis avec le rappeur Easy Moby et le morceau, ce Doo Bop Song.
Specific, he ripped rage and roll, no top for watching Andy Griffith. You can, all you want, go ahead. While he take the doo hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop, Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts, his Miles wanna cool out. You can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo bop.
Just kicking that doo bop sound, just kicking that doo bop sound.
This one is the doo bop.
Just kicking that doo bop sound. Just digging that doobop sound. Just digging that doobop sound. Just digging that.